semaines déjà que le bateau de croisière Concordia s'est échoué juste devant le port de Giglio. Commerce, hôtel, bar, restaurant, tout le monde s'est mis au diapason de ces drôles de visiteurs qui ont placé la petite île au centre du monde.
Penso che avrà molta pubblicità.
C'est sûr que ça nous fait une énorme publicité. On ne peut pas dire le contraire.
Però ancora non ho capito se.
Mais je ne sais pas encore si ça va nous apporter du bon ou du mauvais.
Et oui, la mort peut être le but du voyage. L'île de Giglio, en Italie depuis longtemps, était touristique. Le naufrage du Concordia ajoute un fleuron à la destination. Faut-il en rire ou en pleurer? Un certain discours moral dit que les touristes seraient mieux chez eux et les lieux qu'ils arpentent mieux sans eux, peut-être. Cependant, à lire les chroniques, on voit que les désastres et les champs de bataille ont attiré de tout temps. Celui de Waterloo fut visité aussitôt après la défaite de Napoléon. Et aujourd'hui, le tourisme étant devenu une industrie et le consommateur s'habituant à tout, il attend qu'on lui invente sans cesse de nouveaux produits. Un séjour d'un jour dans une prison d'autrefois reconstituée, il est tenté de dire oui, ça pourrait le changer. En même temps, les déplacements vers les destinations de désolation indiquent que dans le tourisme, il y a aussi une quête. Sans vouloir l'assimiler au pèlerinage, il ne se résume pas à la détente ou au divertissement. Celui qui va à Oradour s'interroge tout de même encore un peu sur le passé. S'il pousse jusqu'à Tchernobyl, c'est qu'il s'inquiète de l'avenir. Le philosophe Jean-Pierre Dupuis a inventé une notion, le catastrophisme éclairé. Elle pourrait s'appliquer au tourisme de la désolation.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Ambroise Tesnas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe de votre état, dans votre famille. La presse, on connaît, mais le photojournalisme tel que vous l'imaginiez dans votre enfance ne se pratique plus exactement de la même façon qu'il y a une génération. Alors vous êtes obligé, en même temps que vous continuez à faire du reportage, de développer des projets qui vous soient très personnels.
Oui, je crois que c'est finalement assez fidèle à la génération de photographes dont je fais partie, des photographes moi j'ai 42 ans, c'est-à-dire des photographes qui ont abordé la photographie avec l'envie d'être photojournaliste, avec un peu la naïveté de penser qu'on pouvait encore l'être, vivant un peu les dernières heures de gloire du photojournalisme en travaillant pour la presse, et puis s'apercevant finalement que la presse, si elle était de plus en plus consommatrice d'images, finalement, il était difficile d'y gagner sa vie. Et donc, j'ai, par la force des choses, décidé de tout en continuant à travailler pour la presse.
Pour la presse américaine, notamment.
Notamment, depuis une dizaine d'années pour la presse américaine, mais de prendre le temps d'avancer des projets, quitte à ce qu'ils soient faits sur un certain nombre d'années, puisque autofinancé, et dont ce nouveau projet fait partie.
Alors ce projet, qui va être le centre de cette émission, est l'objet d'une exposition à Arles l'été prochain, et déjà l'objet d'un livre, toujours aux éditions Actes Sud, c'est le tourisme de la désolation. Alors là, ça vient d'une expérience personnelle. En 2004, vous vous reposez, comme tant d'autres jeunes gens de votre génération, au Sri Lanka, bien sûr.
Cette vague-là n'est qu'une réplique, c'est dire la violence du raz-de-marée. L'eau monte dans les quartiers et c'est le sauve-qui-peut. Des flots déchaînés qui ont pris au piège ses habitants, emportés l'un après l'autre dans les tourbillons. La violence du courant emporte tout sur son passage. Et le toit des bus devient un dernier refuge. Bien fragile. Au Sri Lanka ou dans le sud de l'Inde, c'est une déferlante qui a tout emporté, comme en témoigne cette touriste française.
La mer a recouvert une partie de la côte, en fait, tout le long de la plage, les petits bungalows, les hôtels, il n'y en a plus, ça a été complètement ravagé, des petits bateaux. Les pêcheurs sont arrivés dans les baraques, enfin, c'est un désastre total sur la côte.
Des wagons déposés là comme des bottes de paille, des complexes hôteliers ravagés où l'on ne perçoit aucun signe de vie, des kilomètres de dégâts après le passage d'une vague de 10 mètres de haut.
Amaury Guibert sur France 2, l'image des wagons l'a frappé. Vous aussi d'ailleurs, le train de Colombo, vous l'avez vu coucher.
Oui, je me suis retrouvé à cet endroit-là, à Tel Huata, là où le train Queen of Sea, qui longeait les côtes de la capitale vers le sud, avait été renversé par la vague et était couché dans la jungle, balayé par le tsunami.
Et alors, le fait de voir ensuite, dans des reportages d'autres photojournalistes que vous, ce train, conserver et faire l'objet de visites, vous fait réfléchir à la question, vous amène aussi à lire des textes qui ont été écrits sur ce tourisme de la désolation.
Oui, parce qu'en fait, sur le moment, moi j'y ai passé une semaine, pas très habitué, mais qu'il serait à cet amoncellement de cadavres, à cette odeur, à ces familles qui pleuraient leurs victimes. J'ai passé une semaine là-bas à faire des photos, et puis je suis revenu un peu hagard à Paris. Et quelques années plus tard, en 2008, je suis tombé en effet sur un article qui parlait de ce lieu-là et qui expliquait qu'en fait, des gens venaient sur les lieux pour s'y faire photographier. Et ça a été pour moi le début d'un questionnement sur la motivation de ces différents visiteurs, sans jugement, me demandant si d'autres personnes s'étaient penchées sur ce fait-là. Et donc, très concrètement, j'ai commencé à regarder si des écrits avaient été faits dessus.
Et là, vous tombez sur John Lennon, c'est un professeur de l'université de Glasgow, je précise, ou sur Paul Virilio, qui a écrit aussi un peu sur le sujet.
Oui, je suis tombé en fait assez rapidement sur cette notion de dark tourism, qui est finalement une notion très anglo-saxonne, et sur les écrits de ce professeur Lennon, qui lui s'est penché sur le dark tourism.
Alors, vous voilà parti, puisque vous avez l'habitude de la Chine, pour le Sichuan, une province du centre du pays.
Beaucoup de gens du Sichuan, des autres provinces et les étrangers ont seulement vu à la télé la catastrophe. Du coup, toutes ces personnes veulent venir ici pour voir par elles-mêmes les destructions.
Nous sommes là avec mon fils et ma mère pour voir et se rendre compte de la situation des villes de Pengzhou et Bailou. Parmi nous, personne n'a vécu le séisme, donc on n'a pas eu peur. Je veux que mon fils garde en mémoire cette expérience tout au long de son adolescence. Il n'a jamais dû affronter d'épreuves difficiles. Je veux lui montrer ce que c'est que la misère.
Et pourtant, elle tourne l'émission de Jean-Marc Four, France Inter 2009. Je veux que mon fils garde en mémoire ce passé. C'est pas une intention de détente, c'est pas une intention de divertissement. Il y a aussi un aspect, allez, on va employer des mots modernes, de développement personnel dans ce tourisme.
Après le Sichuan, au nouvel an chinois qui suivait, il y avait plus de 7 millions de Chinois qui sont allés sur les lieux. Et je me suis rendu compte que l'agence officielle chinoise avait choisi de préserver un certain nombre de lieux pour que ça devienne un parcours touristique. Avec cette volonté, en effet, de préserver les lieux pour y ramener une économie et redorer le tourisme sichuanais qui, lui, évidemment, s'était totalement effondré alors qu'il était très fort avant le tremblement de terre.
Donc, dans ce tourisme, il y a une sélection qui opère, vous parlez de l'action de l'agence officielle, il faut parler aussi de l'action des tour opérateurs. D'ailleurs, dans le protocole qui cadre votre projet, vous avez décidé de n'aller que là où il y avait des tour opérateurs.
Oui, parce que je me suis très très vite rendu compte que c'était difficile de photographier impunément de tels lieux sans un protocole précis. Et donc j'ai défini dès le début un protocole assez précis qui était de n'aborder ces lieux que avec l'angle du tour opérateur, c'est-à-dire de les lier avec une industrie touristique en constante recherche de nouvelles niches marketing ou en tout cas de nouvelles offres touristiques.
Alors on continue à explorer vos déplacements. Là, on n'est plus dans la catastrophe naturelle, on est sur un autre registre. Est-ce qu'on est encore dans le voyageurisme ? Il y a une dizaine d'agences qui organisent des voyages à Tchernobyl. Reportage 2002, France 2, Paul de Genève.
À première vue, personne ne voudrait passer ses vacances ici, Tchernobyl. Une destination un peu particulière qu'une agence de voyage ukrainienne propose dans son catalogue. Et tout est prévu pour mettre le touriste en condition. Cette femme en treillis sera votre guide.
Je pense que tous ceux qui se préoccupent de leur avenir et de celui de leur enfant devraient visiter au moins une fois dans leur vie le résultat de ce que peut provoquer la technologie moderne.
Nous montrerons seulement ce qui est sûr. Les familles et les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés et les groupes ne pourront pas se promener librement.
En fin de journée, vous pourrez même rencontrer une des rares familles encore dans la région. Vous pourrez même partager avec eux un bon repas. C'est garanti, tout vient directement du jardin.
J'aime bien le « nous vous garantissons que ce sera sûr ». Vous rentrerez indemne du voyage auprès de la blessure.
Mais c'est toujours cette idée, et à Tchernobyl de façon quand même assez marquante, cette idée de toucher le danger, ce rapport à la mort finalement, qui est qu'on est vivant et puis on va toucher le drame sans le vivre.
Alors racontez comment ça se passe. D'abord, ça coûte combien ?
Tchernobyl, de mémoire, $180 à peu près. Tchernobyl, la concurrence est rude, puisque à Kiev, il y a plusieurs agences qui proposent des voyages. Il faut s'y prendre quelques jours à l'avance, puisque Tchernobyl est une zone qui est fermée. Donc, de toute façon, il faut passer par une agence.
On vous habille,
on
vous protège.
Non, vous arrivez à Kiev. On vous met en effet assez dans l'ambiance de cette idée de la peur du risque. Quand vous rentrez dans la zone d'exclusion, vous êtes accueilli par des gardes, vous passez dans un espèce de sas, comme ça, voilà, pour voir votre degré de radioactivité, qui, de fait, est nul quand vous y arrivez. Rassurez-vous, il est nul quand vous en sortez aussi. Mais on vous laisse entendre qu'il faut quand même contrôler votre degré de radioactivité, alors même qu'il y a des ouvriers qui travaillent sur la zone d'exclusion. Et donc c'est un tour qui prend une ou deux, trois journées. Moi, j'y ai passé 2 jours, donc j'ai dormi dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Tchernobyl, qui est dans la zone d'exclusion, qui est un hôtel tout blanc, comme ça, en tôle, finalement assez anxiogène. Et vous faites le tour, donc vous allez d'abord au plus près du réacteur, où vous voyez le sarcophage à quelques centaines de mètres. Mais c'est d'ailleurs assez frappant dans la plupart de ces lieux, c'est que finalement, le lieu est la preuve historique. Les informations qu'on vous donne sont finalement relativement succinctes.
Mais l'espace, c'est la mémoire. Et comment on le cadre d'ailleurs, l'espace ? Parlons en photographe. Vous voyez des tas de gens qui autour de vous photographient. En quoi vos photos, elles, à cause des protocoles que vous vous imposez, sont très différentes ?
Alors, très différent, je sais pas, moi je travaille à la chambre 4-5 en grand format avec un trépied, donc je peux pas fonctionner dans l'immédiateté du petit format. J'ai besoin de me poser et de voir. Un des protocoles que je me suis imposé notamment, c'est de photographier que ce qui est donné à voir, de pas utiliser les passe-droits du photojournaliste qui peut aller derrière. Donc je photographie ce qui est donné à voir, et dans certaines photos, j'y inclus, parce que c'est des photos de paysage, des touristes qui y passent. Sans forcément d'ailleurs qu'ils soient reconnaissables, puisque mon idée, c'est pas de pointer du doigt, c'est aussi de photographier ces paysages habités. C'est finalement de lier l'histoire, c'est-à-dire le drame et les séquelles de ce drame, avec une réalité, avec une présence actuelle.
Vous avez parlé de John Lennon qui ne pointe pas du doigt. Je parle du professeur de Glasgow qui vous a inspiré. Il dit qu'il y a aussi une préoccupation de l'avenir chez ceux qui vont à Tchernobyl. On va vous offrir un moment de maturation avec John Lennon. Enfin, l'autre, un peu avant de mourir en 1980, dans l'immeuble le Dakota. Il travaillait un certain nombre de morceaux et on a gardé trace de ces moments. Voici l'un d'eux, donc dans son studio en 1980. Ambroise Tesnas, le tourisme de la désolation, un projet photographique que vous poursuivez depuis de nombreuses années, qui a fait l'objet d'un livre chez Actes Sud. Vous travaillez beaucoup avec le journalisme américain, vous allez souvent aux États-Unis. dans l'immeuble du Dakota, dans le hall. C'est un sacré immeuble, hein, parce qu'il a inspiré aussi Rosemary's Baby, l'immeuble de beaucoup de drames. Ça vous fait penser à Dallas, où vous avez travaillé.
Dans l'offre du dark tourism, du dark tourism, il y a en effet les assassinats. D'ailleurs, même à Paris, la princesse Diana, et ce, de mémoire, je crois, le 13e pilier, il y a encore des gens qui descendent pour le photographier. Moi, j'ai photographié en effet l'assassinat de Kennedy à Dallas, où globalement, il n'y a quand même pas grand-chose à voir, à part maintenant la maison de JR et l'assassinat de Kennedy, et qui est l'attraction principale de la ville.
C'est drôle, votre formule. J'ai photographié l'assassinat de Kennedy. C'est-à-dire que le souvenir de l'assassinat de Kennedy passe, évidemment, par les médias qui l'ont filmé et rapporté immédiatement.
Dans chacun, c'est intéressant. En fait, dans chacun de ces lieux, il y a aussi, c'est assez lié à la culture du pays. La visite est un peu organisée à l'américaine, dans le sens où, en l'occurrence, moi, la visite que j'ai suivie, qui s'appelle « Sur les traces de l'assassinat de Kennedy », c'est vraiment vous faire sentir le déroulé de la journée ou de ces journées. C'est-à-dire d'aller dans les maisons où Oswald avait habité dans la banlieue de Dallas, de retourner dans la maison qu'il louait à l'époque parce que séparé de sa femme, où il est retourné a priori juste après l'assassinat. Et vous vous retrouvez dans les lieux, finalement, et c'était assez frappant, qui n'ont que très peu d'intérêt.
C'est un témoignage, dites-vous, de la même façon dont s'organise une conscience nationale. Je vous propose qu'on prenne la destination maintenant de la Lituanie. Alors voilà un pays où la mémoire nationale est difficile à organiser. Les déportations de 1941 par Staline, l'arrivée des nazis, qui parfois a pu être saluée par certains comme l'arrivée des libérateurs, le retour dans le giron soviétique, puis l'indépendance. Et après l'indépendance, floraison de projets. Nous sommes à 130 km de la capitale, Vilnius, dans un parc qui devient un parc d'attractions qui s'appelle le Grutas.
Joseph Vissarionovitch Djougatchvili Staline. Cet homme en fer forgé était à Vilnius, devant la gare ferroviaire. À cause de lui, plus d'un million de personnes ont souffert en Lituanie. Chaque famille lituanienne a été touchée. Nous essayons de raconter cette période d'une manière vivante. Il ne faut pas pleurer sur notre passé. Si on regarde ces statues comme un produit idéologique, elles sont sans aucune valeur. Elles ne veulent plus rien dire pour les Lituaniens d'aujourd'hui. Maintenant, si on les regarde comme des objets d'art, alors là, nous devons nous arrêter pour voir comment les artistes de cette époque ont créé. Et même si la charge idéologique est forte, le travail reste intéressant. Par contre, si on pense aux hommes que ces sculptures représentent, alors là, c'est l'horreur, ça donne la chair de poule.
Mais tous ces statues-là, ce ne sont que des objets, c'est tout. S'ils étaient vivants, là alors, je n'aurais peut-être pas envie d'y aller.
Regardez bien cette sculpture de Vladimir Ilitch. Ses jambes sont longues, son torse est court. Et pourquoi, à votre avis? Kapchukas, le chef du parti communiste lituanien, était plus grand que Lénine. Et le groupe de travail a respecté cette réalité. Mais à la livraison, la commission d'octroi a dit « Mais vous avez perdu la tête en Lituanie ou quoi ? Comment le grand chef pourrait-il être plus petit que son adjoint ?» Faites quelque chose. Alors ils ont ajouté quelques centimètres aux petites jambes de Vladimir et c'est comme ça qu'il est devenu le premier membre hypertrophié de l'idéologie soviétique.
France 3, Malgosha Gago, de l'importance du guide. Le guide ici manie d'ailleurs l'ironie et fait rire les visiteurs. Il y a de l'ironie dans ce parc.
Il y a beaucoup d'ironie, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça rassemble un certain nombre de sculptures comme ça de l'ère soviétique, vous avez dans la cafétéria la possibilité de commander un repas du goulag, donc vous mangez une espèce de borsch, mais dans une écuelle en métal. Dans le parc, au-delà de ces statues, sont disséminés des wagons du goulag, des miradors installés avec de faux gardes de paille dans les miradors, donc oui, il y a une certaine ironie.
Si vous voulez bien, on peut aller maintenant dans un pays voisin, la Lettonie. Là, à Karosta, des attractions extraordinaires qui viennent d'être inventées. Derrière les barreaux, nuit extrême.
Oui, c'est, je crois, un des lieux qui m'a le plus marqué, dans le sens où il était évidemment le plus frappant, si on s'attarde aux dérives de ce tourisme qui, là, pour le coup, devient morbide. C'est une prison au bord de la Baltique, gérée par des privés qui le louent à la ville, qui ont récupéré ce bâtiment qui a servi de prison militaire jusqu'en 97, et où est proposé aux visiteurs soit de dormir dans la prison, donc dans une cellule enfermée, soit d'être traité comme un prisonnier par des gardes en uniforme qui leur parlent, pour l'avoir vécu et pour l'avoir photographié, véritablement comme des prisonniers. Moi, le groupe que j'ai photographié, enfin que j'ai suivi lors de mon passage là-bas, c'était des Lettons qui avaient une quinzaine d'années, et sur les 15 qui participaient autour, donc dans cette nuit extrême, 3 sont tombés dans les pommes à un moment de peur, d'angoisse.
Mais c'est un exercice proposé à des jeunes d'âge scolaire, parce que quand on voit vos photos dans Le Tourisme de la Désolation, je rappelle, c'est un livre chez Actes Sud, on est un peu interloqué de voir proposer cette expérience à des gamins aussi jeunes.
Écoutez, en l'occurrence, ces enfants aussi jeunes étaient emmenés par leur professeur.
Oui, c'est bien ce que je crois.
Voilà, et qui est le professeur de mathématiques d'ailleurs, qui regardait par l'œilleton ses élèves enfermés, tremblant de peur, puisque avec toute cette idée de mise en scène pseudo-réel, c'est-à-dire d'entendre un moment un coup de feu, un moment un interrogatoire au milieu de la nuit, alors même qu'ils pensent que ça y est, c'est terminé, et qu'on les réveille avec un coup de botte sur la porte, et ils se retrouvent face à un garde en uniforme qui, non, n'a pas du tout envie de rigoler.
Mais alors, le professeur qui regardait ça par l'œilleton, qui était professeur de mathématiques et pas d'histoire, il voyait pas que c'était un exercice qui reliait au passé. C'est plutôt l'équivalent pour lui du saut à l'élastique, quoi.
Oui, bah alors, mais en fait, il est fidèle à ce discours qui est quand même relativement dangereux, qui est de dire, pour qu'ils comprennent l'histoire, on va leur faire vivre. Et pour en avoir parlé sur place avec lui, puisque évidemment un peu interloqué qu'il emmène ses élèves ici, il me disait, bah pour eux, ça va être une façon de comprendre cette oppression, comprendre l'histoire, comprendre l'enfermement.
Je vous propose de mettre de côté les visites à Auschwitz. C'est un chapitre tout à fait à part de votre livre que vous avez volontairement isolé, ni de parler du Rwanda ou du Cambodge. Mais Doradour, parce que c'est une situation très particulière et un choix radical très singulier. Bien d'autres massacres destinés à sidérer les populations ont été perpétrés par les nazis, même en France, Maillé en Touraine, Asque dans le Nord. À Oradour a été choisi dès 1945 la sanctuarisation, on pourrait presque dire, si le mot n'était pas vilain, la vitrification. La décision a été prise au moment du voyage du général de Gaulle, mars 1945. Le chef du gouvernement provisoire est très ému.
Il faut qu'un lieu comme Oradour-sur-Glane, qui est bien un de ceux dont parlait Barrès quand il disait qu'il y en a où souffle l'esprit, c'est qu'un lieu comme celui-là reste une chose commune à tous, des ruines qui resteront historiques et symboliques pour la France tout entière. Je salue Oradour-sur-Glane, je salue au nom du gouvernement de la République les martyrs qui y ont péri, je salue leurs familles.
Les ruines conservées, maintenues en état, je parle des débuts de la sanctuarisation d'Oradour, peu d'objets, et après davantage d'objets, mais qui vont souvent venir d'autres lieux qu'Oradour et être présentés dans un espace à part.
Oui, Oradour, moi, c'est vrai que c'était d'abord le choix politique de ce lieu, le fait de l'avoir conservé comme il était, le souviens-toi. Et ça révélait aussi ce qu'on voit dans beaucoup de ces lieux-là, c'est-à-dire souviens-toi certes, et en même temps l'incapacité que nous avons à retenir peut-être des leçons du passé. Et finalement, ce centre de la mémoire qui ne désemplissait pas, avec cette exposition assez frappante du New York State Museum, qui là, pour le coup, tomber dans quelque chose d'assez vulgaire, ou en tout cas...
Qu'est-ce que c'était cette exposition ?
Cette exposition, c'est une exposition dont maintenant, qui est à New York, qui présentait des artefacts, des objets récupérés sur le site du 11 septembre, c'est-à-dire les chaussures de telle victime, la carte de voyageur fréquent d'une certaine Lisa Frost qui est morte dans un des deux avions, un bout d'antenne des tours jumelles. Et à Oradour, c'est vrai, alors pour l'avoir photographié aussi en été, c'est-à-dire lieu de passage vers la route des vacances, il y avait pour moi aussi à ce moment-là vraiment l'illustration de cette ligne finalement un peu difficile à saisir entre ce tourisme de la mémoire et ses dérives.
Et
quand on regarde vos photos, on voit que le comportement des gens est beaucoup moins un comportement de pèlerin, comme au début, mais un comportement de touriste. On est là, torse nu, on photographie.
Oui, et c'est vrai. Alors, sans parler d'Auschwitz directement, qui est en effet très différent dans le projet, moi, quand j'ai rencontré les gens qui sont en charge du mémorial d'Auschwitz, et je les ai rencontrés dès le début, en abordant cette question du tourisme noir, de cette notion, encore une fois, très anglo-saxonne, assez décomplexée, finalement, de visite, leur réaction m'avait assez surpris. M'avait assez surpris parce que eux... expliquait que si pour eux des jeunes mangent leur sandwich près des crématoriums, quelque part, évidemment, certes ce n'est pas l'idée, mais au moins ils sont là. Et que quand on repart d'Auschwitz, on n'est pas pareil. Et que c'est aussi une façon de peut-être de faire confiance aussi aux visiteurs. C'est-à-dire que le visiteur qui va au Radour et qui photographie, il y a une photo comme ça dans mon livre, sa fille près d'une des voitures sur le champ de foire, lui-même étant torse nu, évidemment, visuellement, en photographiant ça, c'est assez choquant pour le moins. Maintenant, peut-être que cet enfant qui se retrouve à Oradour, comme moi, j'ai pu me retrouver à Oradour à, je ne sais plus, 8-9 ans, pour l'avoir visité à plusieurs reprises avec mon père, quelque part, dans mon inconscient, c'est quelque chose qui est resté comme un souvenir fort.
Alors, vous dites que les comportements en Europe, Oradour, au début, le monument de Berlin, les 20 000 mètres carrés, les 2711 stèles d'Enzemann en mémoire, de la Shoah. Ça exige une attitude de pèlerin. Mais même quand on n'a plus l'attitude de pèlerin, on ne revient pas sans avoir été transformé.
Non, c'est sûr. Il y a quelque chose de frappant sur ce côté très éducatif, finalement, d'emmener les gens là, ou d'y aller et d'appréhender et d'essayer de comprendre un peu mieux l'histoire. Et en même temps, encore une fois, pour moi, il est aussi frappant de voir à quel point, finalement, cette offre touristique ne cesse de se développer et que c'est pas pour ça que ces lieux existent que, finalement, un message passe réellement.
Je vous pose une dernière question personnelle, Henri Tesnas. Vous évoquez votre...
Henri Tesnas, mon père.
Vous évoquez, Ambroise Tesnas, votre premier déplacement avec votre père, Henri Tesnas du Moncel, à Oradour. Vous voyez le lapsus. Votre grand-père, c'est un personnage de l'histoire, c'est un personnage de légende aussi, compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, colonel de la Légion, etc. Je ne vais pas vous demander ce qu'il penserait de tout ça, mais son ombre vous accompagne quand même dans vos déplacements.
Oui, enfin, moi, c'est vrai que dans ma famille... proche, plus que proche, il y a toujours eu ce rapport à l'histoire et finalement peut-être ce questionnement perpétuel de ce qui s'est passé et des leçons à retenir du passé. Il y a ce sentiment de la mémoire qui se doit d'être présente et en même temps, cette mémoire qui se doit d'être présente, il faut qu'on nous en donne les codes, il faut qu'on nous l'explique. Encore une fois, au-delà des lieux que moi j'ai pu traverser, ce qui m'a frappé, c'est finalement que les textes accompagnent rarement les lieux, que le lieu devient l'espace à visiter et ce qui malheureusement invite vite aux dérives.
Ambroise Tesnas, le tourisme de la désolation, bientôt une exposition à Arles et déjà un livre aux éditions Actes Sud. L'émission était préparée par Frédéric Martin et à la réalisation Jacques Sigal.